Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Bleu comme l'espoir, aux éditions Thierry Magnier, dans la collection Petite Poche, qui nous plaît tant et dont nous avons déjà parlé. Pour lecteurs à partir de 10 ans, Michaël Olivier signe ce court récit de science-fiction où l'on retrouve sa patte de scénariste. Les scènes se déroulent selon un rythme suffisamment efficace pour emporter le lecteur dans une aventure spatiale sans grand développement, mais lourde de questions. Le garçon ouvre les yeux. Il lui faut quelques secondes pour comprendre ce qui est en train de se passer. L'alarme s'est déclenchée. L'ordinateur de bord a ordonné son réveil. Le sarcophage s'ouvre avec un bruit d'aspiration. L'air a un goût de fer et de caoutchouc. La salle de réveil est toute de métal et de tuyaux. Vision qui ramène le garçon à la réalité. Il sait qu'il ne doit pas se précipiter. Comme on le lui a appris lors de sa formation, il ferme les yeux pour s'habituer au retour de l'oxygène dans ses poumons et compte dans sa tête. Quand assez de temps est passé, il se redresse sur sa couchette. Il regarde ses mains, fait bouger ses doigts, s'étire et reprend petit à petit conscience de son corps. Il pense aussitôt à sa planète qu'il a quittée depuis combien de temps ? À peine a-t-il mentalement formulé cette question que l'ordinateur lui fournit la réponse. 3789 ans. Michaël Olivier dédie son livre à Ray Bradbury, ce grand auteur américain de référence, en citant cette réplique tirée des chroniques martiennes. « Nous n'abîmerons pas Mars, c'est un monde trop vaste et trop avantageux. Vous croyez ? Nous autres, les terriens, avons le don d'abîmer les belles et grandes choses. » Michaël Olivier tient à mettre son texte en résonance avec les mêmes préoccupations d'ordre moral, voire politique, mais sans prétendre transmettre un message humaniste aussi important que celui de Ray Bradbury, appelé « le poète du futur » dans les années 1940. Le héros de son histoire fait partie d'une mission sans retour, d'enfants envoyés à la recherche d'une hypothétique autre planète habitable. Comment avait-on pu en arriver là ? Comment, malgré les mises en garde des scientifiques et la révolte des jeunes générations, avait-on pu épuiser les ressources de la planète mère et la rendre inhospitalière ? Comment des dirigeants en étaient-ils arrivés à confier le destin d'un monde à des enfants répartis en 10 vaisseaux envoyés dans l'espace, dans 10 directions différentes, à la recherche d'un hypothétique refuge. Qu'on ne se prive pas de sentir ici comme une allusion à notre situation écologique bien actuelle, qui provoque des prises de conscience plus ou moins médiatisées. La principale qualité de ce court roman réside bien là, dans ce clin d'œil salutaire, dans la mise en garde contre l'empoisonnement de notre propre planète. Le garçon s'avance vers le grand hublot. Dehors, c'est le noir profond de l'espace, piqué de millions d'étoiles. Le vaisseau file vers l'une d'elles, plus grosse car plus proche, identique en apparence à celle de son monde abandonné, cette boule de feu familière autour de laquelle tournait sa planète, qui se levait le matin à l'horizon, réchauffait la peau, les plantes et la terre, et se couchait le soir. Le garçon pense alors à son père et à sa mère, à ses deux frères et à sa sœur. Les images du passé se bousculent. Il se souvient du temps d'avant le grand réchauffement, quand le lac était bordé d'arbres et qui vivaient des poissons. Il se souvient des fleurs que butinaient les insectes dans les jardins, de la pluie qui tombait, même l'été. Et surtout, de l'air qui ne faisait pas tousser. Depuis, on a lancé dans le vide sidéral 40 filles et autant de garçons à la recherche d'une planète à bonne distance d'une étoile susceptible d'avoir une bonne température, de l'eau et de l'oxygène. « La vie est partout », affirmait la mère du garçon. « Le seul problème, c'est la distance d'une étoile à une autre, trop grande pour qu'un contact soit possible. » Il est confiant, même si l'imminence du contact à venir avec l'espèce humanoïde de la planète refuge ne va pas sans inquiétude. Car comment savoir si les populations de ce monde inconnu vont accueillir pacifiquement ces 8 enfants venus du fin fond de l'espace? Vont-ils les écouter, les accepter, les comprendre? Que savent-ils de la diversité de la vie dans l'univers? Seront-ils heureux ou affolés par cette rencontre? Se pensent-ils uniques, comme la majorité des habitants de la planète mère étaient persuadés de l'être, il y a plus de 3700 ans? À l'arrivée imminente du vaisseau sur la nouvelle planète refuge, la question que se posent les enfants est pour tous la même. Les habitants ont-ils su, mieux que ceux de leur planète mère, prendre soin de leur monde?
Boucle de pierre de Clémentine Beauvais et Max Ducos. On ne peut pas ne pas penser à la chanson de Charles Trenet, Un jardin extraordinaire, en lisant cet album. Je vous cite quelques paroles. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Une adolescente, Léa, traverse le parc tous les jours pour aller rendre visite à son oncle malade. Et cela dure pendant plusieurs mois. Tout le temps qu'il faut à Léa pour observer avec attention le parc et tout ce qui s'y passe. Je remarque des gens qui promènent leurs animaux, des bébés qui grandissent, des fleurs qui naissent, des branches qui cassent, des amoureux qui s'embrassent, et puis moins, et puis non. La grande époque des marrons chauds, et un jour, le camion à glace qui les remplace. Et puis, un matin, je remarque que les cheveux des statues poussent, leurs poils aussi. Ça ne va pas vite les cheveux, ça met du temps à pousser, même pour les statues. Mais tout de même, ça pousse. Léa en parle à son oncle. Je sers à mon oncle une part de tarte aux poires avec beaucoup de crème liquide dessus. Tonton, je lui dis, les statues du parc ont les cheveux qui poussent. Il répond, ah bon, et ajoute encore de la crème. Et les poils aussi. Et il répond, tiens donc. Ensuite, il tousse. Il tousse encore un peu, mais moins qu'au début de sa maladie. Et il mange avec beaucoup plus d'appétit. Les petits chérubins de la fontaine, tu sais, ils avaient des boucles toutes courtes et maintenant, on dirait qu'ils vont fonder un groupe de rock. Ils doivent avoir l'air cool, commande Tonton en reprenant une part de tarte. Tonton est de plus en plus curieux et il demande quotidiennement à Léa de lui décrire à quoi ressemblent les statues. Ces statues qui deviennent presque des personnages à part entière de l'histoire. Le colonel à cheval, dont le chapeau a glissé sur les boucles, les trois grâces aveuglées par leur frange qui a trop poussé, le satyre qui finit par ressembler à un gros mouton frisé. Et puis un jour, Léa fait une rencontre. Au pied de la petite statue de la Liberté, il y a une dame qui nourrit les pigeons tous les jours. Je m'approche d'elle entre deux pluies de miettes. « Madame, vous n'avez pas remarqué quelque chose ces derniers mois avec les statues du parc ?»« Mais si, » murmure-t-elle. « Qu'est-ce qu'il fabrique, le coiffeur ?»« Le coiffeur ?» La dame hoche la tête, qu'elle a couverte de bouclettes, comme la statue juste derrière. « Il vient régulièrement, d'habitude, pauvre statue. Ce n'est pas comme si elles pouvaient dégager leurs cheveux d'un revers de main ou se faire des couettes. Elles sont coincées avec leurs jambes poilues et leurs crinières. Je m'étonne. Les jardiniers ne peuvent rien faire. Ah, ce n'est pas comme tailler des buissons, explique la dame. Il faut des ciseaux à pierre et des limes de toutes sortes et une grande expertise en la matière. » Je ne vous en dirai pas plus. Sinon, pour vous parler des illustrations de Max Ducos, très lumineuses et qui fourmillent de détails parfois drôles. L'oncle de Léa lit entre autres un roman de Clémentine Beauvais, Brexit Romance. Dans un entretien donné à ALCA, Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, Clémentine Beauvais explique « C'est moi qui ai proposé cette histoire à Sarbacane. Emmanuelle Bulk, l'éditrice album de chez Sarbacane, m'a demandé si je voyais quelqu'un en particulier pour l'illustrer. J'ai immédiatement pensé à Max, dont j'adore le travail et qui n'a aucun rival pour les dessins de Parc. Voici ce qu'en dit Max Ducose. Je n'avais jamais illustré d'album jeunesse écrit par un autre auteur. Avec la demande de Clémentine, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer une façon différente de travailler. Je pouvais m'inspirer du jardin public qui est à quelques mètres de mon atelier. Je me suis dit que je devais faire des illustrations qui seraient comme un bouquet de fleurs qu'on offre à une cantatrice. Là, c'était Clémentine. Une histoire pleine de douceur, poétique et un brin fantastique pour des enfants déjà un peu grands.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.